Alléluia. Eh bien, nous allons poursuivre la deuxième partie. Nous allons voir la deuxième partie d'Esther, chapitre 5. La première partie, comme je le rappelle souvent, elle est sur le site. Je vous y encourage à vous y rendre et à découvrir, si vous n'étiez pas là, ce que j'ai apporté dimanche dernier en première partie sur ces textes que nous allons relire. Esther, chapitre 5, verset 1er. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha, toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit, « Si le roi trouve bon que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit, « Allez tout de suite chercher Aman comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Que ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. Amen. » M'arrête là, puisque à partir du verset 9, nous l'avons lu dimanche dernier, ces versets qui suivent, mais ça sera la suite pour une prochaine fois. Donc je disais dimanche dernier que, en définitive, cette femme Esther, c'est la troisième partie que nous avons là, deux parties sur ces premiers versets, mais troisième partie par rapport au fait que le thème de cette méditation biblique que je partage avec vous depuis plusieurs semaines, avec ce livre d'Esther, c'est celui-ci, « Notre avenir est en Dieu ». Et c'était vrai pour Israël, son avenir était en Dieu, non pas entre les mains des hommes, mais entre les mains de Dieu qui va utiliser des hommes. Et cette femme, Esther, va, avec l'aide et le soutien de son oncle Mardoché, elle va devenir une femme qui va apporter un instrument entre les mains de Dieu, qui va apporter une profonde et une réelle délivrance au peuple d'Israël. Et pour qu'elle en arrive là, eh bien, il va falloir suivre les étapes que Dieu veut. C'est Dieu qui dirige tout. Il a tout sous son contrôle. Nous, parfois, on a l'impression de tout contrôler, on contrôle rien. C'est Dieu qui contrôle. Et cette femme, bien sûr, va suivre les étapes que Dieu met en place. Et l'une de ces étapes, et c'était la première partie, et nous allons voir la suite, bien sûr, de ces versets, vu dimanche dernier, c'est que cette femme va devenir une femme de prière. Alors, elle va prier Dieu. Mais elle va également, je vais le dire ainsi, parce que quand il y a ce mot « demande » ou « demander », c'est prier. Elle va prier le roi Assuérus. Elle ne le prie pas comme elle priera le Dieu d'Abraham et de Jacob, mais elle va lui faire connaître, elle va lui communiquer à un moment donné sa demande, au point que le roi Assuérus va lui dire, quand bien même ça serait la moitié du royaume, je te l'accorderai. Nous avons appuyé une approche typologique de la situation qui est riche en enseignements. Une typologie, c'est l'image sur un personnage, un fait dans l'Ancien Testament qui va révéler quelque chose de plus grand que cette image. C'est ça une typologie. Par exemple, Adam était un type de Christ. Christ est au-dessus d'Adam. Vous relirez Romains chapitre 5, verset 14. C'est ainsi noté. Donc, ceci étant dit, comprenons mieux encore une fois de plus ce qu'est une typologie dans la parole de Dieu, eh bien, l'approche que nous faisons, elle est typologique, elle est symbolique, elle est spirituelle, elle nous parle. Elle est riche en enseignements. Et nous avons noté, souligné qu'Esther, avant de se présenter devant le roi Assyrus, qui a un droit de vie et de mort sur tout son royaume, elle va mettre ses vêtements royaux. Elle va se revêtir des insignes de la royauté. Elle ne vient pas n'importe comment dans la présence du roi. Et j'ai appuyé le fait que, en tant qu'église, nous sommes l'épouse de Christ. Esther, c'est l'épouse d'Assuérus. Nous sommes l'épouse de Jésus. Et je rappelais qu'on ne vient pas dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus, n'importe comment. J'ai pris quelques exemples, je ne m'y étendrai pas de nouveau, parce que je ne vais pas prendre trop de temps sur l'introduction. Allez sur le site et vous entendrez la suite. Le monde dans lequel nous vivons, et le monde depuis qu'il est monde, ne se rend même pas compte que Dieu règne. Ils se rendent compte que notre président de la République gouverne. Ils se rendent compte que d'autres présidents dans d'autres pays dans le monde gouvernent. Mais ils ne se rendent pas compte que Dieu règne et que Dieu est au-dessus de tous. Ce n'est ni notre président, ni quelques présidents dans ce monde qui vont dicter à Dieu ce qu'il doit faire. Sans qu'ils s'en rendent compte, ces hommes, à la tête d'un État, à la tête d'un pays, sans s'en rendre compte, c'est Dieu qui dirige pour que sa volonté soit faite. Et si c'est vrai par rapport à ce monde où les hommes ne veulent pas reconnaître ce fait, bien leur fasse. Mais c'est une réalité, nous, en tant que croyants, disciples de Christ, enfants de Dieu, ceux qui viennent à Christ, se rendent compte que Dieu règne. Et nous en avons parlé, effectivement, dimanche dernier, où je rappelais que Dieu, lui, est assis sur son trône, puisque Assuérus est assis sur le trône quand Esther vient faire sa demande. Et qu'elle va toucher le sceptre qui est le symbole de l'autorité et de la puissance de ce roi. Mais je rappelais que le sceptre de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre des Psaumes, c'est un sceptre d'équité. Une véritable justice est entre les mains de ce roi des rois qu'est le Seigneur. Et comme le monde ne voit pas que Dieu règne, il ne veut pas de son autorité. Déjà, même les hommes sans Dieu et sans espérance bafouent l'autorité. Oui ou non? L'actualité est chargée à ce niveau-là. On est dans une société qui rejette et qui bafoue et qui va jusqu'à tuer les forces de l'ordre. Nous sommes dans un monde qui n'a plus de valeurs et de repères. Et comme, eh bien, Dieu est pour eux une autorité, alors ils la rejettent. Ils n'en veulent pas. Mais, je le répète, celui qui est à Christ, celui qui a accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, il se soumet à son autorité spirituelle. Il se soumet à l'Esprit de Dieu. Il se soumet à la volonté de Dieu. Esther, elle aurait pu dire, c'est un roi païen, je ne suis pas là devant celui devant qui je devrais être. C'est d'abord mon Dieu, c'est mon Seigneur, celui qui a créé les cieux et la terre. Non, elle va quand même, eh bien, quand elle va s'approcher de lui, je le répète, elle va se soumettre. et elle va se soumettre à Assuérus. Avec joie. Et malgré tout, avec un certain amour. Mais surtout, par rapport à Israël. Voyez-vous, quand Esther s'approche ainsi, c'est pour nous un enseignement. Et à l'image d'Esther, celui qui s'approche de Dieu par la foi en Jésus-Christ, comme le vit Esther, parce qu'elle va rentrer dans la cour intérieure de la maison du roi, là où se trouve le trône. Mes frères et sœurs, quand on s'approche de Dieu par la foi en Jésus-Christ, eh bien il faut que nous n'oublions pas, comme c'est le cas dans le cadre de ce culte, dans le cadre de toutes nos réunions, de tous nos rassemblements, que nous pénétrons dans la cour intérieure. Le problème, il y a ceux qui restent à l'extérieur. Et Esther, pour revenir au contexte de cette histoire intéressante et magnifique, c'est que si elle n'avait pas écouté Mardoché, son oncle, qui lui a dit, mais qui sait, si tu n'es pas parvenu à cette position royale, à cette position par rapport au roi Cyrus, pour apporter la délivrance au peuple d'Israël, elle va réfléchir et elle va dire, de toute manière j'irai, même si je dois mourir, j'irai. Il y a ceux qui vont rentrer dans la présence de Dieu parce qu'ils cherchent la vie. Il y a ceux qui restent en dehors de la présence de Dieu parce que la mort continue à régner dans leur cœur. Jésus-Christ apporte la vie à qui veut la vie. Jésus-Christ n'apporte pas la mort. Le diable a semé la mort et la sème encore. Mais quand l'Église se rassemble, ce n'est pas un lieu de mort, c'est un lieu de vie où on trouve la vie. Et si quelqu'un ce matin était acculé intérieurement, mort, en train de mourir, de décliner intérieurement, spirituellement, je l'encourage à se prosterner devant Jésus, à tout abandonner aux pieds du Maître, à ouvrir son cœur et à se laisser toucher, purifier dans son âme. Parce que la Bible dit que nous avons auprès de Dieu un avocat fidèle et juste, qui est toujours prêt à nous pardonner. C'est Jésus. Celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je ne peux pas être dans le péché et être dans la vie. Je ne peux pas désobéir à Dieu et être dans la vie. Je ne peux pas marcher en reculant par rapport aux choses spirituelles et être dans la vie. Si je ne suis pas dans cette position-là, je suis dans la mort. Un chrétien né de nouveau, c'est quelqu'un chez qui on voit la vie. Ce n'est pas la vie d'en bas, ce n'est pas la vie des hommes, ce n'est pas une vie qui passe, c'est une vie puissante, une vie de qualité, la vie de Dieu, la vie éternelle, c'est cela. Il y a ceux qui restent à l'extérieur du temple, ceux qui restent à l'extérieur, loin du trône de la grâce. C'est pas normal, parce que nous avons en Jésus-Christ la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu. Dans la présence du roi des rois, dans la présence de celui, je le répète, dont son sceptre est un sceptre d'équité. Nous sommes appelés à rentrer dans la présence du Seigneur, dont l'amour est profondément vrai et dont la miséricorde durera toujours. J'ai fait allusion la dernière fois et j'y reviens avec d'autres détails puisque je n'ai pas terminé là-dessus. J'ai pris cet exemple pour apporter une continuité à notre réflexion par rapport à ce livre d'Esther, parce que notre avenir de l'Église de Groyer, notre avenir personnel, notre avenir familial est en Dieu, en Jésus-Christ. Et je prends cet exemple, c'est acte 3, par rapport au fait d'entrer dans la présence de Dieu, d'entrer vraiment dans la cour intérieure, d'entrer là où il y a la bénédiction, la guérison, pour vous, mais pour vos proches également. Il ne faut pas rester à l'extérieur. Je parlais vendredi soir par rapport à l'enseignement une fois par mois concernant la formation de disciples pour Christ et je vous encourage tous à venir parce que vous avez tous besoin d'être formés. Même après 30 ans, 40 ans, 50 ans de présence avec Dieu, qui est arrivé? Levez la main. Qui? Vous avez tous besoin d'être formés. d'apprendre à mieux connaître la parole de Dieu, d'apprendre à mieux servir le Seigneur, je vais vous faire une parenthèse, pour être des disciples de Christ qui vont révolutionner Groyer, le Tarn et la France. Ce n'est pas la politique qui va révolutionner la France. Ce n'est pas les religions. Ce ne sont pas tous ces gens bien pensants avec leur philosophie. Non, c'est vous. Je me permets de le rappeler. Ça remue. Oui. Ben, tant mieux. Parce que dans Acte 3, il y a un homme qui va être remué. Et cet homme a été pendant des années dans la mort. Et je bénis Dieu de ce qu'il y ait eu des disciples de Christ qui ont amené chez cet homme la vie, et la vie en Jésus. Ils vont permettre à cet homme, dans Acte 3, eh bien, de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Je développe. L'homme en question, c'est un infirme. Il est devant cette porte du temple, une des portes du temple qui, elle, est appelée la Belle. La particularité de cette porte du temple, je le rappelle, c'est qu'elle était en bronze, elle était incrustée d'or et incrustée d'argent. En définitive, cet homme, il contemple la réalité de la grâce de Dieu sans pouvoir y entrer. Parce que nous avons là tout un symbolisme spirituel. Le bronze, ou l'airain, va symboliser le jugement et la justice de Dieu. Mais quand on lit l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 14, le verset 16, nous le connaissons pour beaucoup d'entre nous par cœur, c'est très bien, mais quand je lis le verset 14 du chapitre 3, je me rends compte de ceci, c'est l'histoire qui concerne Israël, mais ça nous interpelle. Il est écrit « Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, Jésus, soit élevé, afin que quiconque croit en lui, on y revient, et la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et l'histoire nous dit, dans l'Ancien Testament, que parce que le peuple d'Israël s'est opposé à Dieu, dans la désobéissance, les murmures, et bien d'autres choses encore, alors le Seigneur va tout simplement agir, il va envoyer des serpents brûlants pour punir ses enfants. Oui. Et ces serpents brûlants, paf, pour les mordre. Et ils mouraient instantanément dans le désert. Mais Moïse s'est placé entre Dieu et le peuple. Ça s'appelle l'intercession. Et là, il va crier vers l'Éternel. Il n'est pas là en train de dire « bien fait pour eux », il l'intercède. Alléluia ! Il l'intercède devant le trône de la grâce, parce que Moïse, lui, il peut entrer dans la cour intérieure. Ceux qui sont en train d'être mordus par les serpents brûlants, ils ne peuvent pas y entrer. Ils sont mordus par des serpents brûlants, et le serpent représente le diable. Et le diable essaye de mordre ceux qui ne veulent pas rentrer dans la cour intérieure, dans la présence de Dieu. Pourtant, c'est libre l'accès. Pourtant, il a été ouvert à la croix l'accès. Nous n'avons qu'à rentrer. Mais comment rentrer? Par la porte qu'est Jésus-Christ. Si je cherche une autre porte, celle d'essayer à me donner bonne conscience, de me donner raison dans mes actes, mes pensées, par rapport à ce que j'entends, qui n'est pas toujours juste, alors à ce moment-là, je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Et je risque d'être mordu par le diable, qui n'attend que cela. Et quand il m'injecte son venin, c'est un venin qui m'entraîne vers la mort, dans de grandes souffrances intérieures. J'aimerais que vous réalisiez ce matin, au-delà du bonhomme qui est en train de prêcher, que le Saint-Esprit est en train de parler à vos cœurs. Je suis convaincu que certains s'opposent à la puissance de Dieu, à cause de l'incrédulité, du doute, à cause de la réaction de leur chair. Ils empêchent le Saint-Esprit d'agir dans leur propre famille pour la guérison, pour la délivrance, pour le pardon. Dieu veut vous bénir. Mais pourquoi s'oppose à la bénédiction cet homme qui est devant cette porte? Il réalise qu'il y a un jugement à cause d'une situation qui est la sienne, mais qui n'est pas seulement la sienne, qui va être celle de tellement d'hommes et de femmes. Il est devant cette porte qui est incrustée d'or et qui symbolise ce métal beau, éclatant, inoxydable et précieux, qui symbolise la gloire et la nature de Dieu, mais il en est à l'extérieur. Et il y a là devant cette porte incrustée, elle est là incrustée d'argent, et l'argent, ça a la valeur de rachat, ça symbolise la rédemption qui est en Christ. En définitive, il a tout le message. Il a tout le message, cet infirme. Il a tout le message de la grâce de Dieu, ce boiteux de naissance. Et il y a tellement de gens qui sont boiteux à cause du péché. Ils sont boiteux à cause de leur mauvaise mentalité. Ils sont boiteux à cause de leurs mauvaises paroles. Ils sont boiteux à cause de leurs mauvaises réactions. Ils boitent, ils claudiquent. Et Dieu va dire, mais jusqu'à quand tu vas clocher comme ça, un coup à droite, un coup à gauche, un coup je crois celui-ci, un coup je crois celui-là. Tu dois croire Jésus-Christ. Non, je ne suis pas énervé. Je suis convaincu. Parce que la Bible me montre cela. Je ne m'appuie pas sur le livre de recettes de ma grand-mère. Je m'appuie sur l'Évangile. Je ne m'appuie pas sur le livre d'un tel et d'un tel, ou de ce qu'il raconte, il écrit lui-même son livre. Je m'appuie sur l'Évangile. Cette porte, appelée la belle, elle est entre le parvis des païens et celui des femmes. C'est comme ça, le temple était ainsi fait. Il y a aussi le parvis pour les enfants d'Israël, dans lequel se rendent les hommes pour pouvoir participer aux offrandes et aux sacrifices. C'est ainsi qu'est fait le temple d'Israël et à Jérusalem. Et pour des raisons légales, selon la loi, selon l'ancienne alliance, l'impotent ne pouvait pas aller au-delà de la belle porte. Il voyait la grâce. Il voyait la bénédiction qui lui tendait les bras, mais parce qu'il est infirme, il ne peut pas en profiter. Mais ce qu'il a oublié, cet homme, ou ce qu'il ne peut être, il ne sait pas encore, c'est qu'on n'est plus sous l'ancienne alliance. À ce moment-là, on est sous la nouvelle alliance. On n'est plus dans l'ancienne dispensation, on est dans une nouvelle dispensation qui a été mise en place par Jésus à la croix, parce qu'il a donné sa vie. Alléluia, il a tout accompli. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et j'insiste, béni soit Dieu pour ces croyants qui sont disponibles parce qu'ils peuvent l'être, parce que leur cœur est pur, leur cœur est droit, leur cœur est intègre. Alors de dire à cet homme, Pierre et Jean, c'est eux dont il est question, voilà la bénédiction de Dieu. Esther est rentrée dans la présence d'un roi qui va faire que passer, mais elle va obtenir ce qu'elle va demander, et on le verra une prochaine fois. Mais là, cet homme, lui, et je souhaite que ça soit pour beaucoup d'entre vous, je ne parle pas seulement des personnes nouvelles, mais il y a des chrétiens qui ont reculé. Ils se sont mis derrière la porte appelée la belle du temple, dehors. Mais moi, je veux rester dedans. Je veux demeurer dans la justice de Dieu. Je veux demeurer, alléluia, je veux demeurer dans la présence glorieuse de Dieu et profiter de sa nature et de ses attributs. Je veux rester dans la rédemption que j'ai reçue en Jésus-Christ, alléluia, par grâce. Je veux pas venir ici comme un petit religieux et dimanche après dimanche, je m'assois, je prends la Sainte-Cène et puis je m'en vais. Non, ça m'intéresse pas. Je veux rester chez moi, ici, partout où je suis, dans la présence de Dieu. Il y a un chant qui dit, dans la présence de Dieu, il y a tant de joie. Quand règne son esprit, c'est la liberté. L'impotent ne peut pas aller de la belle porte, il ne peut pas. Parce que Lévitique 21-18, pour lui, c'est pas possible. Dit, tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher, un homme aveugle, un homme boiteux, ayant le nez camu, un membre allongé, bref, il ne peut pas. Mais cette disposition de la loi de Moïse, je l'ai dit tout à l'heure, elle est typologique dans le sens que, malgré tout, on se rend compte qu'aucun aujourd'hui dans la grâce, dans le temps de la grâce, dans le temps de la nouvelle alliance, aucun handicap ne peut interdire qui que ce soit de venir dans la présence de Dieu pour recevoir la guérison, le pardon, la justification, le relèvement, la restauration, la transformation, la bénédiction, la puissance de Dieu, le miracle de Dieu. Amen. Par contre, le péché constitue un mur. Si je viens dans la présence du Seigneur, c'est parce que je me rends compte qu'il a tout accompli et qu'il a jugé déjà l'adversaire de mon âme. Je me rends compte qu'il est le roi des rois et qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi tout-puissant, alléluia, celui qui règne avec autorité, mais une autorité équilibrée. Et je me rends compte que la rédemption, elle m'est accordée et je suis et je peux être, eh bien, racheté de ma vaine manière de vivre, non pas par de l'or et de l'argent qui vient de la terre, mais par l'argent rédemption qui est en Christ, qui vient du ciel. Alléluia, par la royauté de Christ qui domine toutes choses et qui veut encore sauver aujourd'hui qui que ce soit qui est prêt à croire en lui. Eh bien, c'est de pouvoir ainsi être de ceux et de celles qui vont profiter de cette réalité, mais pour en profiter, il faut que je fuis. Ah, je veux le dire comme ça. Que je fuis comme la peste, le péché. Ah, j'aurais presque pu dire comme la lèpre, parce que la lèpre symbolise le péché. Sous toutes ses formes, médisance, calomnie, manque de pardon, refus de pardonner, réaction charnelle, tout cela n'est pas la nature de Dieu. C'est contre nature. Et le Seigneur Jésus est venu pour nous montrer que le boiteux peut être remis sur pied correctement. Donc il est hors du temple. C'est vrai, quand je lis l'Évangile et je veux être équilibré, quand je lis Matthieu chapitre 21 verset 14, je me rends compte que certains avaient violé l'interdiction de la loi de Moïse. Ils sont entrés dans le temple alors qu'ils étaient aveugles et boiteux. Oui ou non? Vous avez votre Bible? Oui, vous suivez derrière. Un jour, je ne vais plus mettre les versets, tiens. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. De qui? De lui. De Jésus. Jésus est dans le temple à ce moment-là. Alors ils vont entrer dans le temple parce que, normalement, ils n'ont pas le droit selon la loi. N'oublions pas que si Jésus est dans le temple à ce moment-là, c'est qu'on est toujours sous la loi. Il n'est pas donné, encore, il n'a pas donné encore sa vie sur la croix. Mais ils vont aller au-delà pour être guéris par Jésus. Il va les guérir. Mais lui, il n'avait pas osé. Parce que je vous rappelle, selon le texte, que ce boiteux. Il était là, amené à la porte la belle du temple tous les jours. Depuis longtemps. Ce qui veut dire qu'il a vu Jésus passer. Il a entendu des témoignages d'aveugles et de boiteux qui avaient été guéris parce qu'ils avaient osé rentrer dans le temple. Pour être guéris. Non pas pour braver une interdiction. Mais lui, il n'a pas osé. Mais malgré tout, mes frères et sœurs, le témoignage est venu jusqu'à lui par le fait qu'il a entendu parler de Jésus. Il est entré dans le temple. Il est entré dans le temple parce que maintenant il est guéri au nom de Jésus. Il a accès dans une dimension qui lui était fermée auparavant. Il a franchi cette porte et il est entré dans ce qu'elle représente. Ceux qui ont été justifiés par la foi entreront dans le sanctuaire. Hébreux chapitre 10, versets 19 et 22, il est écrit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur, c'est Jésus, établi sur la maison de Dieu, approchons-nous, approchons-nous. » Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure par l'action de l'évangile de la vérité. Alléluia. Il n'y a pas de plus grande grâce que celle qui réside dans la possibilité qui nous est donnée d'avoir accès aux richesses intérieures de la vie divine et de la communion avec Dieu lorsque nous nous approchons de Dieu par la foi et dans un état d'esprit de repentance et de respect. Ce n'est pas l'extermination qui nous attend, mais la grâce et un accueil bienveillant. Et voyez-vous, Esther, j'y reviens, chapitre 5, verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle obtint sa faveur. C'est ce que je viens de dire et j'insiste. Elle obtient, elle va obtenir sa faveur. Il n'y a aucun délai entre l'instant où nous nous approchons de Dieu et celui où Dieu nous voit. Et ça me rappelle, je m'appuie encore sur cet autre témoignage de l'Évangile, dans Matthieu 9, quand Jésus va voir la foi du paralytique et de ses amis, Jésus voit. Amen. Alors, vous allez dire, oh, pour... voit. Non, c'est très important. Il voit. Il voit. Il voit, il entend. Je pense que si on comprenait mieux cela, on ne se permettrait pas de faire et de dire n'importe quoi. À partir du moment où on croit que Dieu existe, on ne se permet plus de mal parler et de mal réagir. Et si on a tendance à vouloir le faire, eh bien on va se jeter aux pieds du Seigneur, dire Seigneur, aide-moi parce que ma chair, elle prend le dessus. Et je ne veux pas obéir à ma chair, mais je veux obéir au Saint-Esprit. Et Jésus va voir leur foi. Et cette foi va se manifester par des actes. Vous avez Matthieu 9, vous avez le même texte dans Marc chapitre 2. Ils vont découvrir le toit de la maison, etc. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, je t'extermine maintenant. » Ça serait dur hein, si c'est écrit comme ça. Hein. On n'oserait plus bouger. Non, « Mon enfant, tes péchés !» Si on avait été à la place de cet homme, puisqu'il est paralytique, on dirait « Seigneur, attends, tu te trompes. J'ai pas besoin que tu me pardonnes mes péchés, parce que mieux que moi, ça n'existe pas. Mais, parce qu'on se compare toujours aux autres, hein, non, mais j'ai besoin que tu me guérisses de ma paralysie. Franchement, si cet homme avait fait ça, qu'est-ce qui se serait passé? Ben, il aurait dit à ses amis, hep, vous pouvez le remonter, hein. Non, ça ne s'est pas passé comme ça, et puis ça ne devait pas se passer comme ça. Tes péchés te sont pardonnés, et il va l'accepter. Oh, pas les scribes, les pharisiens qui sont là, bien sûr que non. En définitive, ses amis, ainsi que lui-même, parce qu'il a été consentant, on le comprend très bien, ne vont pas se laisser arrêter par l'obstacle que la foule constituait. Esther, elle ne se laisse pas arrêter par la possibilité de mourir. Elle sait que derrière, il va y avoir la bénédiction de Dieu. Pareil pour cet homme. Maintenant, tu es guéri, entre. Et il va rentrer dans le temple, il va sauter, il va louer Dieu, il va bénir Dieu. C'est la fête! Ils se sont pas laissés arrêter par l'obstacle que la foule constituait aussi. Vous savez, défaire le toit, ça a une signification. Je ne sais pas si vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vous l'expliquer en deux mots. Défaire le toit, ça signifiait tout simplement, symboliquement, que tous les toits, écoutez bien ce que je vous dis, sous lesquels nous pouvons nous cacher, sont souvent, devant Dieu, de faux abris. Ils n'ont pas laissé le bonhomme sur le toit en disant « Seigneur, il est sur le toit, guéris-le ». Oui, le Seigneur aurait pu le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Non, eux, ils veulent apporter l'homme. Ils veulent eux-mêmes se présenter quelque part, aussi devant le Seigneur, dans leur acte de foi de reconnaissance. Ils veulent en définitive ouvrir. On ne laisse rien cacher. J'ouvre vraiment. Je dis vraiment. Seigneur, façon tu vois, oui, mais j'ai un acte, j'ai une démarche. Moi-même j'ouvre, moi-même je me présente, moi-même j'ouvre mon cœur, moi-même j'ouvre ma vie. Je suis pas là en train d'essayer de me donner bonne conscience, non. J'ouvre, alléluia. Et je dis, Seigneur, prends tout, purifie-moi, sanctifie-moi, là ça va pas, là je dérape, là je décroche spirituellement. Aide-moi, Seigneur, là je décline, là je suis en train de chuter, relève-moi, le Seigneur va agir. Parce que là, il voit qu'on enlève le toit. On ne se cache pas en disant, oh, non, j'enlève tout. Amener le paralytique au Seigneur démontre un désir entier, je dirais quoi que silencieux, de venir à la lumière, de venir à Jésus avec l'intention de se détourner d'une vieille manière de vivre. Pierre dira, repentez-vous d'abord, ensuite soyez baptisés au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La foi d'Esther, la foi de cet homme, la foi de ces hommes et femmes, elle me marque. Venir au pied du Seigneur manifeste une totale confiance dans son accueil et sa miséricorde. Et même Esther auprès de ce roi Assyrus, parce que Dieu le veut, parce que Dieu contrôle Assyrus, elle va obtenir la faveur. Prends courage, mon enfant, dit Seigneur. Et prends courage, mon enfant, c'est une parole stimulante pour quelqu'un qui a peut-être un soupçon de crainte au fond de lui ce matin. Prends courage, mon enfant, c'est certainement une parole stimulante pour quelqu'un qui a au fond de lui une culpabilité qui l'abat et le décourage. C'est peut-être cette parole, prends courage mon enfant, eh bien une parole stimulante pour quelqu'un qui a besoin et qui reconnaît qu'il en a besoin du pardon de Dieu qui restaure. Et je vais terminer. Verset 3. Qu'as-tu, reine Esther, et que me demandes-tu? Quelle est ta requête? Dieu vous demande, qu'as-tu? Quelle est ta requête? Et pour comprendre comment obtenir et comment rester, d'abord entrer, vous avez compris comment il faut faire, mais comment rester dans la présence de Dieu, il suffit, et je l'ai plus ou moins souligné tout à l'heure, comme le dit Paul aux Galates chapitre 5, je vais comprendre que les désirs de ma chair et ceux de l'esprit sont opposés entre eux. Et je vais veiller. Mais je vais comprendre aussi qu'en agissant ainsi, en réfléchissant ainsi, eh bien, que à partir du moment où je fais de l'Éternel tous les jours mes délices, ce que mon cœur désire devient conforme à ce que Dieu désire. Parce que je sais que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. C'est ça, faire de l'Éternel ses délices. Et à ces conditions, cette promesse, elle peut se concrétiser en y ajoutant l'affirmation du psaume 119, verset 16. « Je fais mes délices de tes statuts. » Pas les statuts de plâtre. Hein. Parce qu'une fois je disais ça, et quelqu'un me dit « Ah, donc on peut adorer les idoles ?» Ben, j'ai dit non. Non, parce que c'est la langue française qui est comme ça. Hein. Alors si vous préférez, je vais tourner ça autrement. « Je fais mes délices de ta parole. » Voilà, de tes commandements. Vaut mieux parfois faire attention aujourd'hui parce que je n'oublie point, d'ailleurs il le dit après, je n'oublie point ta parole, je n'oublie point tes commandements. Et le psalmiste va faire de la parole de Dieu les délices de son cœur. Esther veut faire les délices, la parole de Dieu, les délices de son cœur. Mardoché aussi. C'est aussi ce que Jésus a enseigné en disant que si ses disciples demeuraient dans sa parole, Jean 15 verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Oui, mais il faut faire ce que je viens de souligner. Mes frères et sœurs, dans ma conclusion, je dirai ceci, et je rappelle ceci, c'est très important. Esther, elle avait mis 3 jours à part pour prier avant de demander à Assuérus ce qui était l'objet de sa requête. Et quand on pense à ces 3 jours, eh bien, en définitive, ça nous fait passer à ce laps de temps qui est en rapport à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, mais sur le plan de notre vie, qui est en rapport avec l'importance de faire mourir les désirs de la chair et de pouvoir en arriver à dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Il y a tellement d'autres choses, bien sûr, mais je verrai la suite la prochaine fois et je la souligne en deux mots. Elle va dire « Roi, que Aman vienne aujourd'hui avec toi à ma fête. » Derrière, il y a le plan de Dieu. Alléluia. Et on verra la suite la prochaine fois. C'est la motivation d'Esther. Elle veut tout simplement obtenir la neutralisation des desseins meurtriers de Aman. Elle veut le démasquer. Elle veut le confondre afin que le peuple d'Israël soit sauvé de la menace de la mort qui plane sur lui. Et je rajoute ceci, je le rappellerai dans mon introduction, que nos désirs, que nos prières, que nos actions aillent dans le sens de voir Dieu glorifié, de voir l'adversaire confondu et d'empêcher l'adversaire d'arriver à ses fins ici, dans cette église de Groyer, ici, en France. Alléluia! Parce que nous n'ignorons pas les desseins du diable. Et je cite 1 Corinthiens 2:11, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Esther n'ignorait pas les desseins d'Aman. Elle va tout faire dans sa démarche, comme nous devons le faire en Jésus-Christ, pour nous opposer à tout ce qui pourrait nous amener à nous opposer à Dieu. Je ne sais pas si j'ai été clair. On va prier encore.